Bonjour à tous, c'est le retour des programmes d'Aligre FM, pardon, c'est 93.1, et c'est le retour de Vive le cinéma à l'antenne après cette pause estivale. Et c'est le retour aussi de la table ronde critique de Vive le cinéma avec Benoît Basirico, Pierre Charpillos. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs films, de 5 films, 5 longs-métrages, et puis évidemment toujours des coups de cœur, des petites recommandations. On va parler de Beetlejuice de Tim Burton, de Septembre sans attendre de Jonas Trueba, d'Emilia Pérez de Jacques Audiard, de À son image de Thierry Peretti et du Procès du chien de Laetitia Doche. Tous sont actuellement à l'affiche. Benoît ?
Eh bien oui, tout à fait, avec l'intermède où on va un peu citer nos différents coups de cœur. On va commencer en musique, comme toujours, hein, un thème musical qui va enchaîner sur le film en question, et le premier thème musical, vous allez tout de suite le reconnaître. Musique au style très reconnaissable de Danny Elfman, qui retrouve là son cinéaste fétiche Tim Burton pour la suite du film de 1988, avec une partition finalement essentiellement basée sur les thèmes d'origine. On retrouve donc ce thème qui faisait aussi le cœur du premier Beetlejuice. Très peu de nouvelles musiques originales, un peu comme le fait de remettre en vie les musiques du passé, et c'est un peu tout le sujet du film.
Après une terrible tragédie, la famille Dix revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille. C'est Beetlejuice, donc, de Tim Burton. Voilà, le titre, c'est que deux fois, parce qu'on ne va pas aller jusqu'à le prononcer trois fois. Benoît, Bernard, qu'est-ce qu'on en pense cette suite ?
Je suis assez partagé, en fait. Ça m'a permis quand même de me raccorder à Tim Burton, parce que qui m'avait un peu perdu ces derniers temps, notamment avec le dernier, je crois que c'était Dumbo, le dernier.
Et la série Wednesday.
Alors que j'ai pas
Wednesday,
vu.
Wednesday, ouais, pour Netflix.
Avec Jenna Ortega déjà.
Ouais, qu'on retrouve. Mm. Et ben justement, c'est un peu l'originalité, enfin la singularité, je sais pas, mais en tout cas, c'est l'idée un peu de remettre au goût du jour Beetlejuice, ce film-là, et de le raccorder aussi au monde contemporain. À tout ce qui n'existait pas en 1988, téléphone portable, les réseaux sociaux, etc. Et puis l'aspect sériel, parce qu'effectivement, le film est très foisonnant, il y a beaucoup d'histoires dans tous les sens. Le premier était déjà un peu foutraque, mais en même temps, il bénéficiait aussi de l'écriture, je trouve, de Michael McDowell, cet écrivain qu'on connaît aussi maintenant, parce qu'il a eu ce succès post-mortem avec la série Blackwater, qui a édité les éditions Toussaint Louverture. C'est lui qui avait participé à l'écriture du premier Beetlejuice. Là, on retrouve une écriture totalement différente, avec des histoires parallèles, même une histoire avec des ados aussi pour intéresser, pour inclure aussi un public plus jeune. Donc moi, j'ai partagé parce qu'à la fois, ça me permet de me raccorder quand même à son imaginaire, avec les références cinéphiles, la poésie gothique, fantasque, onirique, la mélancolie de Tim Burton, etc. Et en même temps, je retrouve pas la folie, l'inventivité du premier, et du coup, je passe un peu par des montagnes russes, à la fois d'excitation et d'ennui devant le film. Voilà.
Bah face à un Tim Burton, on a affaire évidemment à un grand cinéaste, on peut tous être d'accord, en tout cas un cinéaste qui a un univers. Et parfois, il a pu se fourvoyer, oublier son ADN, ça a été le cas pour moi à partir de La Planète des Singes, où déjà là, lui qui avait toujours voulu quand même fuir le blockbuster, même s'il en avait signé, notamment avec Batman. Avec La Planète des Singes, vraiment, il se fourvoyait là. Ensuite, évidemment, quand il a adapté Alice au Pays des Merveilles, je trouvais que c'était, voilà, ça débordait, c'était dégoulinant, c'était pour moi raté. Et pour moi, je l'ai retrouvé il y a quelques années par le biais de l'intime. Pour moi, Tim Burton n'est jamais meilleur que quand il parle de lui-même, quand il parle de ses préoccupations, donc à la fois d'homme, de père de famille, mais aussi cinéphile. Et on retrouve ici, dans ce film Beetlejuice, finalement, son autoportrait à travers lui, cinéaste. Il a l'impression de plus être à la mode. Et justement, le film se questionne sur revigorer quelque chose du passé. Et on retrouve justement l'ADN de Tim Burton, notamment Frankenstein, qui est vraiment son film précurseur, clé. Édouard Romain d'Argent était déjà une variation de Frankenstein. Et là, le personnage de Monica Bellucci, en mangeuse d'âme, est également un personnage Frankenstein. C'est-à-dire qu'elle s'est reconstruite, recollée les bouts de peau. Donc, c'est une créature monstrueuse. Il y a aussi, évidemment, Tim Burton en tant que dessinateur. C'est un univers visuel qui n'appartient qu'à lui. Et ce qui est intéressant, aujourd'hui, on parlait justement des évolutions technologiques, c'est qu'il n'a pas voulu être débordant d'effets spéciaux. On reste dans le bricolage, dans le trucage. Hein. Tim Burton, lui, qui a adapté, justement, enfin, qui a signé un film à partir de la vie d'Ed Wood, on retrouve ce côté série Z, bricolage, carton-pâte. Donc ça, j'ai beaucoup aussi aimé ça. La mort lui va si bien, pour reprendre un titre d'un film de Zemeckis, c'est-à-dire qu'il y a cet univers de comédie, de satire, le miroir, en quelque sorte, de l'Amérique, comme il le fait toujours, mais en même temps, quelque chose où la mort rôde, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il y a une mélancolie, je trouve. Le cinéaste, on voit qu'il est triste de son époque, et à travers cette mélancolie, il y a une certaine candeur. On peut trouver certains personnages archétypaux, etc. Mais cette candeur, moi, m'a touché, en fait. Et donc, j'ai vraiment eu accès, et c'est rare dans un blockbuster, j'ai eu accès à ce que nous raconte le cinéaste de lui-même.
Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup du retour de Tim Burton. C'est aussi le retour de Tim Burton à la Warner, puisqu'il avait signé avant quelques films avec Disney, dont il raconte lui-même que ça ne s'était pas bien passé, qu'il n'avait pas pu faire ce qu'il voulait faire. Donc, ce qui explique aussi que ce sont globalement des mauvais films, et ça, tout le monde est d'accord là-dessus, même Tim Burton lui-même, semble-t-il. D'ailleurs, dans Beetlejuice, il y a un petit moment, une petite réplique qui fait référence aux princesses, aux Disney. On sent que c'est, voilà, une manière un peu pour lui de se dire c'est fini, on passe à autre chose, on retrouve vraiment ce que j'ai envie de faire en réconciliant donc avec son studio historique, la Warner Bros. Malgré tout, moi j'ai trouvé que c'était vraiment du best-of Tim Burton, effectivement période Warner, c'est-à-dire qu'on a plein d'effets, on a plein de choses dans tous les sens, on a beaucoup beaucoup de recyclage à l'image de ce que fait Danny Elfman par exemple. Effectivement, cette musique qu'on a entendue tout à l'heure, elle est super, elle est vraiment géniale, et le générique de début de Beetlejuice, qui est donc quasiment le même que celui du premier Beetlejuice, est toujours aussi efficace. Mais en termes de réinvention, en termes d'invention surtout, il y a quasiment rien. Enfin, c'est des choses qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà vues, qui continuent à fonctionner, mais autant revoir finalement le premier. Il arrive finalement un peu à Tim Burton ce qu'il arrive à Danny Elfman, parce que Danny Elfman, c'est quand la dernière fois qu'il a composé un morceau vraiment d'anthologie dont on se souvient, ça fait quand même quelques temps, alors que ceux qui sont marquants, de Desperate Housewives, de Beetlejuice, datent d'il y a une petite vingtaine d'années. Donc il y a ce côté un peu, il se répète, je vois que...
Non, Dumbo avait un nouveau thème, je trouve très très beau.
Oui, mais qui n'est pas resté dans les mémoires collectives, contrairement aux autres thèmes un peu historiques d'Elfman. Et puis il y a plein d'histoires qui sont à la fois un peu compliquées et qui finalement se résolvent très très facilement, très très rapidement. On est un peu déçus, notamment cette histoire avec Monica Bellucci que tu évoquais, Benoît, qui certes est intéressante sur le papier, mais finalement moi je m'en désintéresse complètement parce qu'elle est amorcée et elle est un peu oubliée. On a l'impression qu'il a rencontré Monica Bellucci au Festival Lumière, c'est-à-dire on va lui donner un rôle dans mon film, on va rajouter un petit truc à la dernière minute. ça fonctionne pas très bien. Michael Keaton, il s'amuse, c'est assez agréable de le voir retrouver un rôle un peu amusant. Il continue à faire ça très très bien. Ça reste quand même beaucoup la même chose que le premier. Et cette candeur, cette mélancolie dont tu parlais, Benoît, qui je trouve effectivement la force de Tim Burton. Ed Wood est génial comme film sur la fin d'Hollywood, sur la fin d'une époque, avec le personnage de Bela Lugosi. C'est un film plein d'une profonde mélancolie, mais ça c'est complètement absent, quoi. C'est un film un peu gadget qui passait les effets un peu rigolos m'ennuie beaucoup. Et puis il y a beaucoup d'idées et certaines qui fonctionnent pas très bien. Je pense notamment au Soul Train, donc le train des âmes où tout le monde danse sur du soul parce que Soul Train, si jamais on n'a pas compris. On nous fait quand même la blague 2-3 fois dans le film, donc au bout d'un moment ça commence à être assez clair. Voilà, moi je suis pas encore réconcilié avec Tim Burton, malheureusement.
Non, mais à la limite, c'est le grand sujet de Tim Burton, c'est l'inadaptation à la réalité et au monde tel que celui qu'on connaît, qu'on vit au quotidien. Et à la limite, ça prend une puissance énorme en revisitant un film du passé des années 80. C'est une façon aussi de revisiter son propre passé de cinéaste. C'était son deuxième long métrage. C'était le long métrage qui a fait tout commencer pour lui, puisqu'après il a fait le Batman et tout est parti de là. Et voilà, à la limite, oui, moi je suis vraiment d'accord sur l'aspect quand même mélancolique, parce que on sent que cette inadaptation elle est puissance 1000 dans ce film, et ça se voit sur les acteurs aussi, puisqu'on retrouve Winona Ryder 30 ans après, et que voilà, on est vraiment dans cet aspect de...
Oui, mais ça, ce serait vrai si on n'était pas à une époque où Hollywood n'a de cesse de faire des remakes, des prequels, où on recycle des vieux acteurs. Ça pourrait très bien, ce que tu dis, s'appliquer au dernier Scream, dans lequel on retrouvait les acteurs originaux de la saga, au dernier Halloween, dans lequel on retrouvait Jamie Lee Curtis. Donc on a aussi ce côté des vieux acteurs qui, finalement, ne sont employés plus à grand-chose qu'à retrouver leur rôle d'anthologie dans des remakes. Cette mélancolie, elle est là, mais elle est là presque par le système lui-même.
Il en fait quelque chose avec, par exemple, Geoffrey Jones. Qui est le Charles Dietz de 88, et vu que dans la vie réelle il a des problèmes, on va dire personnels, qu'il ne peut pas il ne peut plus figurer en fait dans un film sans créer de polémique, donc il en fait un personnage cartoon, enfin en tout cas le personnage de film d'animation dans un flashback du film, et qu'il en fait un homme sans tête dévoré par un requin. Et ça, c'est plutôt une idée assez intéressante, qui n'est pas dans la mélancolie, mais qui est plutôt dans un truc loufoque et cartoonesque.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a la mélancolie, mais c'est pas passéiste, c'est-à-dire qu'il est en prise quand même avec son contemporain. Il y a une scène, moi, que j'aime beaucoup dans l'église où il y a le mariage, et où tout le monde est sur son téléphone en train de filmer ce qui se passe, et ils sont littéralement mangés par leur téléphone.
Donc, un truc de vieux quand même. Cette jeune génération.
C'est quand même un truc des boomers.
D'accord, alors je le suis peut-être un peu. Mais, et le personnage de Jenna Ortega qui vient de Wednesday, mais là aussi, je trouve qu'il parvient quand même à créer des personnages de la jeunesse est encore là. Il y a une vitalité malgré tout. Et le spectacle musical, moi j'aime beaucoup ce Soul Train justement, et les fameuses scènes dansées dans l'église. Donc il y a toujours cette volonté de réenchanter le monde malgré tout. Moi, c'est ce qui me touche aussi. Mais bon.
Bon, tu as tout à fait le droit d'être touché par Beetlejuice, aucun problème.
Allegre FM 93.1.
Thank you.
Ce morceau est tiré du film Septembre sans attendre de Jonas Trueba. C'est le morceau s'appelle Isao, écrit par Vincent Perreni, Vincent Segal, Balaké Sissoko et Émile Parisien dans le registre du jazz, un jazz mélancolique. C'est un titre préexistant mais qui sert de thème au film. Il traverse le film à différents moments du morceau. Ça commence de manière mélancolique pour finir de manière festive lors de la fête de séparation du film, film sorti le 28 août.
Après 14 ans de vie commune, Ale et Alex ont une idée un peu folle, organiser une fête pour célébrer leur séparation. Si cette annonce laisse leurs proches perplexes, le couple est certain de sa décision. Mais l'est-il vraiment ? Donc voilà, je me suis mal exprimé, mais c'est une fête de séparation qui est organisée et tout le monde trouve ça un peu bizarre de célébrer sa séparation alors qu'ils sont en couple depuis longtemps. C'est donc le nouveau film de Jonas Trueba. Benoît, Bernard.
Bon, j'attaque. Alors, Jonas Trueba, déjà, voilà, cinéaste espagnol que je vénère de film en film. Il a une place particulière dans le cinéma espagnol, hein, évidemment, qui était trusté pendant longtemps par Pedro Almodovar, qui continue lui aussi à être en forme, malgré tout. Mais ce Jonas Trueba, je trouve, filme entre le documentaire, entre l'errance des personnages et la verve des dialogues, à la Romère un peu. Un cinéaste passionné par la Nouvelle Vague. D'ailleurs, il est question de la Nouvelle Vague dans ce film, hein. Il est Truffaut est cité comme une figure tutélaire, et puis on pense beaucoup à Rivette aussi sur cette soif d'expérimentation narrative, une dimension ludique, un regard espiègle sur ces personnages. Donc c'est, on le disait, un couple qui souhaite célébrer sa séparation, mais pas du tout dans le mélo, pas du tout dans les disputes, hein, mais au contraire, dans le ludique, il y a constamment du jeu, en fait. Et c'est ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on s'amuse tout le temps, il y a des bifurcations du récit, et on se perd et on se retrouve. On n'est pas dans le mélodrame attendu, donc on n'est pas dans le classicisme de l'épreuve, de la séparation, mais dans un aller-retour entre la comédie et l'introspection intime, et puis aussi surtout le personnage principal incarné par Itzao Arana, qu'on avait déjà vu dans Eva en août, est cinéaste et elle est en train de préparer son film. Donc il y a un aller-retour comme ça entre réalité et fiction, et j'ai beaucoup aimé aussi cette manière de brouiller les repères. On ne sait plus en fait si le film se repose sur des coulisses d'une préparation que sur une réelle séparation. Ils sont toujours en train, comme un mantra, hein, dire à leur entourage « on va se séparer », mais on ne sait pas si c'est vraiment pour se rassurer eux-mêmes, pour renouveler leur amour, que réellement une volonté de séparation. Donc il y a comme ça un ludique, mais en même temps une mélancolie, encore une fois, qui traverse ces personnages qui sont là comme des enfants en train de vouloir peut-être raviver la flamme.
Alors effectivement, il y a cette idée de passage du temps, puisque c'est la troisième fois que les deux comédiens jouent ensemble et forment un couple. Donc il y a cette idée que voilà, on les a vus se rencontrer et puis après vivre ensemble et maintenant ça séparé. Donc ça c'est une idée qui me séduit plutôt, mais je trouve que en même temps, ce film-là, Septembre sans attendre, alors que j'aimais plutôt les précédents, je trouve qu'il est dans un système qui tourne un peu sur lui-même, pour moi en tout cas, et que justement ce que tu appelles le mantra, enfin cette idée d'annoncer à tout leur entourage on va séparer, qui provoque une répétition qui constitue vraiment l'ossature du film, puisqu'ils ne font que ça. Ça commençait vraiment à... Enfin, j'en avais marre, voilà. Et puis, ils commençaient à m'exaspérer un peu, les deux. Donc, oui, pour moi, ça fonctionne pas trop. J'aime plutôt, en tout cas, l'idée de ne pas savoir pourquoi ils se séparent. Et en même temps, il y a un effet pervers et un effet retors. C'est-à-dire que c'est trop théorique. Et pour moi, cette idée de, en plus d'intégrer Stanley Cavell, qui a théorisé justement la comédie du remariage dans le cinéma américain, et donc d'y faire allusion, ça renforce cette idée théorique du film, qui pour moi ne s'incarne pas assez, en tout cas. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça tourne un peu en vide, j'ai l'impression d'entre-soi. Et le seul personnage à la limite qui me plaît, qui est incarné, je trouve, et qui m'intéresse, c'est le personnage du père, justement, qui aurait soumis l'idée, même s'il s'en souvient plus ou qui veut pas s'en souvenir, de faire une fête pour se séparer.
Incarné par le frère du cinéaste, Fernando Trueba.
Le père, ouais.
Bah, oui, le père. Le père,
oui,
voilà.
J'ai dit le frère, le père.
Voilà. Et qui est vraiment génial dans le film. Voilà.
Tout à fait.
Mais le reste, je suis pas trop convaincu, Pierre.
Moi, je me situe un peu entre vous deux, c'est que je suis assez d'accord d'un point de vue intellectuel avec ce que tu veux dire, Bernard. C'est vrai qu'il y a un côté assez système, assez projet. Alors ils évoquaient beaucoup la comédie de remariage à l'américaine au moment de la présentation du film à la Quinzaine. Moi, j'ai pas trop vu ça dans le film, à part sur l'aspect scénaristique, mais d'un point de vue de rythme, d'un point de vue de comédie, ça me semble quand même assez différent. On est plus proche, effectivement, d'un cinéma un peu des sentiments, du temps qui passe, un peu à la Romer, ce qu'il fait très très bien Jonas Trueba. Je pense que son meilleur film, c'était peut-être le précédent, justement, Venez voir, qui était très très réussi, et un août aussi. J'aime bien le fait qu'il recycle un peu toujours les mêmes acteurs, qu'il a ce côté un peu troupe, on retrouve effectivement les acteurs qu'on ne connaissait, qu'on avait déjà vu dans les films précédents, et donc on sait un peu comment est-ce qu'ils fonctionnent, la manière d'être, même si c'est pas les mêmes personnages, ils jouent un peu des personnages assez similaires, hein. Je pense notamment à Vito Sanz, qui est ce personnage un peu comique, un peu mou, comme ça, qui est assez drôle. Moi, il m'exaspère pas trop, j'aime bien passer du temps avec eux, et je trouve que le film nous invite à passer un peu de temps avec eux dans leurs disputes, dans leur mélancolie, puis dans l'humour un peu du quotidien. Il y a ce côté aussi mise en abîme, film sur une réalisatrice qui fait un film avec un acteur qui est lui-même joué par un acteur. Donc on sait plus trop quand on est dans le film et quand on est dans la réalité. Voilà, c'est assez rigolo et c'est assez bien fait quand même. Je trouve que ça pouvait être un peu casse-gueule comme projet. Je trouve que finalement, ça fonctionne assez bien, ça nous perd pas du tout et ça reste intéressant sur ce que ça raconte aussi sur le cinéma. Et je suis d'accord, le personnage de Fernando Trueba, le personnage du père est quand même assez drôle et donne truculent. Voilà, il donne lieu à quelques scènes assez irrésistibles. Donc je comprends effectivement que c'est peut-être un film un peu facile, un peu systémique, un peu léger, mais voilà, je suis conquis malgré tout parce que je suis assez sensible à ce qu'il fait, donc voilà, je suis une cible facile, je pense.
Et c'est vrai que je comprends ce que Bernard dit par rapport au mot répétition, que ça peut lasser, mais moi j'ai vécu ce mot dans le sens répéter comme une pièce de théâtre. Ils sont en train toujours de répéter, un peu comme si voilà, on refait des prises à chaque fois. Et donc c'est vrai que c'est les coulisses du cinéma, quelque part, c'est une réflexivité en fait, c'est qu'est-ce que le cinéma si ce n'est vouloir répéter pour atteindre une vitalité. On répète, on est dans le faux, mais au fond, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est un sentiment. Et je trouve que ce film, finalement, le sentiment est à la fin. Alors pendant tout le film, on est dans une répétition pour atteindre un sentiment, et dans cette fête de séparation, cette scène finale, moi je trouve qu'on atteint le sentiment, mais peut-être
j'ai pas
tout
cela. J'ai pas trouvé. Il y a l'aspect...
Chanson, à l'instant, composée pour le film Emilia Pérez de Jacques Audiard, écrite par Clément Ducol et Camille, qui conçoivent donc les chansons en espagnol de cette comédie musicale, puisque Jacques Audiard signe sa première comédie musicale située dans les cartels mexicains.
Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet plus enclin à blanchir les criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. C'est donc Emilia Pérez de Jacques Audiard. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé, Emilia Pérez ? Benoît, Bernard.
Ah bah, film musical, Benoît, tu vas commencer.
Bah oui.
Ok. Donc en fait, là, j'ai quasiment tout détesté dans ce film. Rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne pour moi. Déjà, première chose, vouloir tout traiter, tout mettre, jongler avec les genres. Pour moi, c'est trop excessif, trop maniéré, trop tape à l'œil. On voit le cinéaste qui a envie d'épater la galerie. Donc première chose. Deuxième chose, le mélange des genres est maladroit parce qu'il finit par n'en traiter aucun. La comédie musicale n'existe pas, il n'en fait rien, ça ne traite de rien, La comédie musicale, ce qui est intéressant, c'est comment ça traite de l'artifice, comment ça traite justement du simulacre, du merveilleux, pourquoi pas, ou même parfois du contraste avec un sujet grave et réenchanter quelque chose à la Jacques Demy. Ce film-là ne traite pas du tout son sujet musical. D'ailleurs, en interview, Jacques Audiard lui-même dit qu'il ne s'intéresse pas aux comédies musicales. D'ailleurs, il ne s'intéresse pas non plus à la transidentité. C'est un sujet qui, pour lui, peut-être est à la mode et il voulait l'intégrer dans son film. Je trouve que ça ne fonctionne pas non plus. Les personnages sont désincarnés, stéréotypés, ne fonctionnent pas. Quand le personnage est un homme, il est viril. Quand il devient une femme, il est émouvant. Je trouve ça un peu binaire. Finalement, malgré le sujet intéressant et contemporain, je trouve qu'il en fait l'inverse de ce qui pourrait être attendu de ce sujet-là. Une superficialité, c'est-à-dire que là, vraiment, ce film, on a l'impression que Jacques Audiard est touriste dans son propre film, dans un pays qui n'est pas le sien, dans des genres qui ne sont pas les siens. Et finalement, malgré tout, on retrouve Jacques Audiard dans tout ce qu'on peut détester de son cinéma, c'est-à-dire un cinéma de l'épate, encore une fois, et un cinéma du masculin.
Très bien. À la limite, c'est ce côté factice, ce côté artifice du film qui est pour moi le sujet principal du film. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse le plus, à la limite. Comme Burton, c'est le temps ou la confrontation au temps qui passe. Là, c'est pour moi, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est qu'il soit entièrement fait en studio en France, que la photographie de Paul Guillaume... je trouve soit aussi inventive dans ce cadre-là, reprenant des codes visuels de comédie musicale en les détournant. Mais c'est vraiment cet aspect fabrication du faux qui m'intéresse. Mais après, c'est vrai que ce côté factice me met totalement à distance. C'est ça aussi l'effet pervers et m'empêche d'être ému par le film. Donc ça crée une distanciation. Vraiment de A à Z dans le film, pour moi, qui est embêtante quand il s'agit de faire un mélo, de faire un film qui attrape les spectateurs par les sentiments. Et du coup, ça n'a pas fonctionné sur moi.
Oui, voilà. Mais surtout que ce que traverse ce personnage, moi j'aurais voulu être en empathie, et voilà. Ce film interdit l'empathie, en fait, c'est ça un peu le drame.
Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, c'est quand même le film qui va représenter la France pour la compétition des Oscars.
Cela dit,
c'est peut-être pas une mauvaise idée, hein, parce que on sait que c'est rarement le meilleur film qui emporte le plus de statuettes ou qui a ses chances. Donc, pourquoi pas, peut-être que les Américains seront sensibles à cette comédie musicale de Jacques Audiard, on verra. En tout cas, oui, moi, j'ai pas du tout aimé. Déjà, faire de la question trans un pur prétexte de scénario, je trouve ça 100% opportuniste et assez problématique sur le fond, quoi. Ça veut dire que voilà, c'est un vrai sujet de société, d'actualité. C'est autre chose qu'un prétexte de scénario. Et on a l'impression de retrouver la manière dont on traitait la transidentité dans les films d'il y a 30, 40 ans. C'est-à-dire que c'est un pur objet dont on va pouvoir se servir pour un personnage qui se transforme. Donc, c'est même Transamérica, là-dessus, était beaucoup plus intéressant, donc, alors qu'on a quand même beaucoup progressé sur la question depuis. Donc, je trouve ça vraiment dommage et assez problématique sur le fond. Puis surtout, c'est moche. Enfin, je veux dire, il y a peut-être un hommage à la telenovela qui est cherchée à plusieurs moments dans certaines scènes de dialogue. Je pense notamment à la fin ou une certaine manière d'éclairer les scènes d'intérieur. Mais bon, enfin, telenovela, c'est pas très intéressant et c'est quand même assez moche. Donc le côté hommage aux telenovelas, ça, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Il y a des super actrices, ou en tout cas des actrices de renom, je pense à Selena Gomez, à Zoé Saldana, dont il fait finalement pas grand chose. Il a ce projet de comédie musicale, donc comme tu disais, Benoît, il fait rien du tout. Enfin, moi, je me souviens d'aucune musique du film. Là, on a écouté tout à l'heure une musique du film, ça m'était complètement sorti de l'oreille. J'ai même pas eu envie de tendre l'oreille pour l'entendre davantage, tellement c'était inconsistant et que ça ne m'intéressait pas du tout. Donc voilà, je trouve ça assez décevant et peut-être même un peu problématique sur le fond. Hein. Qu'est-ce que ça raconte sur la question des cartels, sur le trafic de drogue, pareil, c'est pas du tout. Enfin, c'est du pur prétexte de scénario. C'est un pur projet de scénariste doublé d'une esthétique pas terrible, disons.
Eh bien, c'était
Emilia Pérez.
Ce qu'il en reste.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Rain on all the other trickles down. 93.1.
À l'instant, cette musique était tirée des graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulov, film iranien mais produit par l'Allemagne, qui d'ailleurs représentera l'Allemagne aux Oscars. Le titre donc, Rain Up, interprété par Sarah Love, en fait c'est la jeune adolescente du film qui l'écoute sur son téléphone, donc c'est un peu le pont vers l'Occident, l'Amérique, la culture pop, qui est comme une porte de sortie pour elle, dans cet Iran qui emprisonne les femmes. Ce film est donc très politique, c'est ce qui m'a plu dans l'Iran contemporain, mais ce qui m'a encore beaucoup plus plu que ce côté politique, c'est comment ce politique va bouleverser un huis clos familial et comment le père va être vu comme le monde politique qui oppresse, et les jeunes femmes, la mère et les deux filles, vont se rebeller. Donc il y a une espèce de crescendo, la montée d'une révolte au sein d'un huis clos familial. Et finalement, ça se transforme en huis clos, en thriller et en track, et qui est hyper maîtrisé en termes de mise en scène. Et il y a même une dernière partie du film qui me rappelle un peu Antonioni dans L'Aventura, où il y a une espèce de ballet des corps, de jeu de cache-cache, tout en étant un thriller. Et je trouve qu'au niveau de la mise en scène et de la maîtrise du propos, c'est bouleversant. Donc Les graines du figuier sauvage est ma recommandation.
Très bien. Pierre.
Moi j'avais envie un peu de vous parler d'un cinéaste dont on va parler beaucoup, dont on a beaucoup parlé à Cannes, qui est Sean Baker, puisqu'il a eu la Palme d'Or avec Anora. Là on a pu revoir grâce au Pacte, son distributeur en France, ces trois films qui étaient sortis en France précédemment, donc à savoir Tangerine, Florida Project et Red Rocket. Et enfin, à partir de la fin octobre, grâce à un autre distributeur, là c'est The Jokers, on va pouvoir voir en salle en France ces quatre premiers films qui n'étaient encore jusque-là pas sortis dans l'Hexagone, hein, parce que nous on l'avait découvert avec Tangerine, donc cette géniale odyssée à travers Los Angeles de prostituées trans entièrement filmée à l'iPhone, hein, c'était à la fois très drôle, très humain et très émouvant. C'est vraiment la patte, ça je trouve, de Sean Baker, concilier l'humour sans jamais se moquer de ses personnages et aller tout de suite juste après avec une scène d'une profonde émotion tout en étant toujours très juste et à la bonne hauteur avec les personnages toujours particuliers qu'il filme. Et on retrouve ça vraiment dans ses premiers films, en particulier un hein, que je vous conseille plus que tout, je pense même que c'est son meilleur film, c'est Prince of Broadway. On suit un vendeur à la sauvette de chaussures de contrefaçon à New York qui va devoir s'occuper de son fils, dont il n'était même pas au courant de l'existence jusqu'à ce que son ex déboule et lui donne ce bébé dans les mains. Alors, quelque chose d'assez unique chez Baker, c'est que toujours il s'intéresse à des marginaux, à des gens dont on se demande comment est-ce qu'il commence à s'y intéresser, et il arrive toujours à les filmer à leur hauteur, avec une grande empathie, comme s'il faisait partie de leur communauté, même quand il filme des immigrés chinois sans papier dans Take Out, par exemple, qui est aussi à découvrir. Et surtout, c'est un formidable directeur d'acteurs. La plupart de ces acteurs qu'on voit dans ces films sont inconnus. On pourrait même dire, n'ayons pas peur des mots, le kéchiche américain. Il y a vraiment quelque chose dans la manière dont il dirige ses comédiens qu'on retrouve chez Abdelatif Kéchiche, je trouve. Et ça se voit dès son premier film, For Letter Words, qui est un portrait mélancolique d'une bande de potes, le temps d'une soirée, hein, c'est des amis à lui, c'est des gens qui lui ressemblent. Ça fait beaucoup penser à d'autres premiers films de réalisateurs indé américains, je pense à The Myth of the American Sleepover de David Grover Mitchell, ou Kicking and Screaming de Noah Baumbach. On a une espèce de trilogie de films sur l'adolescence américaine dans les années 90 à voir avec ces trois films. En tout cas, je vous les conseille, celui-ci, les trois autres, et puis bien sûr, tous les autres, et Anora, qui lui sort le 23 octobre en salle, je crois, en tout cas qui sort aussi dans la foulée. Je vous conseille tout ça, allez voir tout Sean Baker, ça vaut le coup.
Je plus sois, comme on dit, cette recommandation. On parlera, je pense, le mois prochain d'Anora, donc qui est magnifique film de Sean Baker.
Oui, avec plaisir.
Alors, moi, je suis complètement d'accord, en tout cas, sur le film de Rasoulov, Les graines du figuier sauvage aussi, que j'ai vu la semaine dernière, et qui est vraiment formidable, très, très impressionnant. Et il ne faut pas du tout avoir peur de la durée, hein, parce que le film fait 2h45, mais enfin, voilà, il faut vraiment y aller, prendre son temps et s'immerger dans le film. Moi, je voulais parler d'un cinéaste qui est mort il y a quelques semaines, qui aurait fêté dans deux jours son 99e anniversaire. C'est un cinéaste français qui était le doyen du cinéma français, qui s'appelait Jean-Charles Takela. On parle beaucoup de doux amer avec Jonas Trueba. C'est souvent un qualificatif qui revient pour parler de ses films. Bah, celui qui avait peut-être inventé ça dans les films français, en tout cas, c'était Takela, avec des films comme Cousin Cousine, qui a été son plus grand succès, qui a été un film qui a été nominé d'ailleurs aux Oscars dans les années 70, et puis des films beaucoup moins connus comme Il y a longtemps que je t'aime, qui a à voir d'ailleurs avec dans le sujet en tout cas, à voir avec le cinéma de Trueba, dans le sens où c'est un couple, Marie Dubois, Jean Carmet, installé depuis des années et des années ensemble, depuis peut-être 25 ans, et qui dit annonce à leurs enfants qu'ils vont se séparer. Voilà, c'était le sujet du film. Mais voilà, ce qui est intéressant avec Takela, qui a été longtemps un scénariste du cinéma français, très éclectique, hein, puisqu'il a écrit à la fois la première version de La Grande Vadrouille de Gérard Houry, et en même temps, il a signé le scénario Des Honneurs de la Guerre de Jean de Vever, qui est un film très très méconnu, mais assez, assez fort. Et puis, tardivement, alors que voilà, il avait entre 45 et 50 ans, il a commencé à réaliser des films. Son premier court-métrage, Les Derniers Hivers, était un film choral, alors qu'il faisait peut-être une demi-heure, 20-30 minutes. Il a gardé un peu cette patte dans ses premiers longs-métrages. Il a été peut-être un des premiers aussi là, en France à faire des films comme ça, avec de multiples personnages. Je pense au Pays Bleu, qui est un film qui a été édité récemment en Blu-ray par Gaumont, et qui est un peu remis, qui était un peu réactualisé par l'actualité, par le Covid, etc., puisqu'il parlait déjà à l'époque de ces citadins qui allaient s'installer à la campagne ou à la montagne pour un peu fuir la ville.
Sujet de Venez voir de Jonas Trueba, justement.
Voilà, donc du coup, voilà, c'est très, très, très troublant, en tout cas, ces allers-retours, même si, à mon avis, Jonas Trueba ne connaît pas Jean-Charles Takela. Mais voilà, Takela était un cinéaste qu'aujourd'hui, évidemment, on ne voit plus les films, on ne voit plus ses films, on l'a oublié. C'était aussi peut-être un des cinéastes les plus cinéphiles du cinéma français, avec Tavernier, à peu près la même génération. Hein. C'était en tout cas quelqu'un qui était vraiment un puits de science. Voilà, je vous recommande évidemment de voir ses films. Il y en a certains qui sont édités en DVD, donc évidemment Cousin Cousine, qui est le film le plus important, peut-être son meilleur film, le premier long métrage qu'il avait fait, qui s'appelait Voyage en Grande Tartarie, n'est pas du tout édité nulle part, il est invisible, donc j'espère qu'il ressurgira un jour, parce que c'est un film très, très étrange, très acerbe, très grinçant, et je trouve très actuel, mais qui n'a pas marché, donc c'est pour ça qu'il s'est un peu rangé du côté des comédies. Mais voilà, certains films comme Le Pays Bleu est disponible aussi, donc je le disais, chez Gaumont, et puis surtout c'est mémoires, voilà, je vous recommande ces mémoires chez Séguier, c'est des mémoires très très précises et qui vous font traverser un siècle de cinéma français.
Cousin voilà. Cousine avait reçu un Oscar, non ?
Non, il avait été nominé.
Il avait été nommé, ok. Jean-Charles Takela, donc un hommage, d'ailleurs ça me fait penser à citer un film qui n'était pas dans notre programme, qui est aussi un autre hommage, Ma vie, ma gueule, Sophie Filière, qui est dans le paysage du cinéma français, de la comédie française, très singulier, avec beaucoup de fantaisie, et avec Agnès Jaoui, qui incarne une alter ego de Sophie Filière, un film qu'elle a terminé par procuration, puisque sur son lit d'hôpital, elle a transmis des indications de montage à ses deux enfants. Ma vie, ma gueule, à voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas...
Oui, c'est ouais. un film assez épatant et assez... très, très fort. On ressort de là un peu en larmes. Mmh. et il faut dire aussi que la rétrospective Sophie Filière se poursuit à la Cinémathèque française. Elle a commencé lundi dernier, d'ailleurs, avec l'avant-première du film. Et elle se poursuit notamment ce soir, avec d'autres... Et beaucoup d'invités qui sont présents.
Voilà, La vie, ma gueule, de Sophie Filière.
Falchetta si pone in piazza, tempo arriva tan furiesta, insammata agli istanti e poi ripida la testa. Aspettando i compagni, si calchi ad una zarista. Insomma ti che diso tutti, ricominciano a giocare, e così una paruna sa ciò chi la resta fa. Chi sottato ior disomma.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Direction la Corse, comme vous l'entendez, avec ce chant corse de Cantau Populu Corsu. Il s'agit de « À son image » de Thierry de Peretti.
Fragment de la vie d'Antonia, jeune photographe de Corse Matin à Ajaccio. Son engagement, ses amis, ses amours se mélangent aux grands événements de l'histoire politique de l'île des années 80 à l'aube du 21e siècle. C'est la fresque d'une génération. Ah, c'est donc le retour à la Corse de Thierry de Peretti. Alors, on est plutôt du côté corse aujourd'hui. Bernard, ah bah,
attention,
Benoît.
Il faut faire attention à ce qu'on dit.
Ouais, bon côté, hein.
Non, mais après, voilà, c'est un cinéaste passionnant, Thierry de Peretti. Et dans ce film-là, qui est une adaptation, effectivement, d'un livre, en fait, ce qui est assez fabuleux, c'est la manière dont Thierry de Peretti filme cette génération des années 80, comment elle s'est radicalisée politiquement. Et en même temps a engendré finalement une amertume. Donc il y a tout ça dans le film et c'est assez fort. Et c'est surtout la manière. Enfin moi, ce qui me passionne le plus dans le film, c'est la manière dont il filme tout ça. Et il a cette manière de filmer le passage du temps à la fois et en même temps tous ces personnages, de filmer le groupe. C'est vraiment sa marque de fabrique. Dans ses films précédents, il y avait déjà ça. Et en plan large, il y a vraiment ce truc du plan large et de la presque de la chorégraphie des corps de cette génération à mettre en scène qui est je trouve hyper intéressante. Et comment finalement un personnage central va accompagner cette militance nationaliste et comment il va s'inscrire dans ce groupe et dans ce cadre, dans ces plans larges. Il faut signaler d'ailleurs, j'aime bien toujours signaler les chefs-op, c'est José D qui a fait l'image du film. Et voilà, après mon point faible du film, c'est vraiment, alors pas forcément tous les acteurs, mais en tout cas l'actrice principale que je trouve un peu plus faible que... voilà.
Je suis pas d'accord.
Eh ben, tu vas pouvoir la défendre.
Clara Maria Loredo. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement de ce personnage-là. Donc, tu dis qu'il y a du collectif, mais pour moi, c'est un personnage fort, déjà, en dehors d'être le talent de l'actrice. C'est un personnage fort, cette jeune photographe de Corse Matin. Il y a cet engagement, ses amours. Et je trouve qu'à aucun moment, je me dis, c'est une actrice. Et c'est ça justement peut-être que ça qui t'a pas plu, mais en tout cas pour moi, elle ne joue pas. On voit qu'elle est pas actrice. On a l'impression presque que c'est son propre rôle. Elle a l'accent, donc on voit qu'elle est corse, etc. Et je trouve qu'elle a ce naturalisme en fait. Elle a ce jeu vraiment naturaliste et le personnage fort parce que seule femme dans un monde d'hommes quasiment, et c'est la seule qui est un peu à nu. Il y a une scène moi que je trouve très très forte en fait, c'est quand elle vient avec son appareil photo prendre en photo des indépendants. Dentiste cagoulé. Et c'est la seule qui a visage découvert. Et donc, il y a cette femme à visage découvert qui vient prendre en photo des cagoulés. Et je trouve que le rapport de force entre les personnages à ce moment-là est assez troublant. Et donc, sur ce que le film dit de l'engagement à visage découvert derrière un appareil photo ou un engagement cagoulé, je trouve que ce film, finalement, est un très beau film sur toutes les formes d'engagement. Que ce soit un désir, une soif d'intégrité, la quête des racines, mais également les limites de l'engagement. Donc il y a les trahisons, il y a l'implosion d'un groupe, il y a les contradictions, la notion d'appartenance à un groupe ou à une culture, mais aussi à un espace. Moi, je trouve le film très très fort sur cette question d'engagement et comment c'est incarné par cette photographe qui en dit beaucoup plus sur le métier de photographe que récemment le film Civil War. Oui. Sur comment, voilà, quelle position entre immersion et distanciation par rapport à son sujet et comment aussi elle va batailler vis-à-vis de sa hiérarchie pour placer des sujets dans le journal qui ne font pas la mode de sa rédaction en chef. Donc ça, je trouve ça le film très fort à tout niveau, que ce soit au niveau du métier de journaliste, que ce soit au niveau de l'engagement, de la chronique d'un territoire, la Corse, mais également la question de la représentation. Comment on va laisser une trace dans la mémoire ? Et le film dit beaucoup de cette trace mémorielle, de comment on va revisiter l'histoire de la Corse et laisser une empreinte.
Ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est un film qui est très riche sur beaucoup de sujets, comme vous l'avez évoqué, mais qui réussit malgré tout à ne pas être un espèce d'inventaire, de dire voilà, on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. on se rend compte que ça parle très finement de tous ces sujets dont on a abordé, mais sans qu'on nous, on nous donne une liste, sans qu'on nous détaille des choses, sans que ce soit un peu froid comme ça et donné à entendre. C'est vraiment assez passionnant. C'est d'abord effectivement un film sur la Corse, c'est effectivement l'adaptation de Jérôme Ferrari, qui est le grand romancier contemporain de la Corse, hein, qui avait aussi fait Serment sur la chute de Rome, qui est un passionnant livre sur la Corse contemporaine, plutôt, enfin contemporaine d'il y a quelques années maintenant. Et là, c'est à la fois l'histoire de la Corse, l'histoire politique récente de la Corse, et en même temps, c'est un peu ce que c'est que l'âme corse, quoi. Ça veut dire quoi être corse? Et évidemment, hein, le meilleur cinéaste pour en faire l'adaptation, c'est Thierry de Peretti, et ça conclut une espèce de trilogie, alors si on exclut son premier film, mais ça, une trilogie avec Une vie violente, Lutte jeunesse, qui était un documentaire sur le casting de Lutte violente, mais qui est vraiment un film passionnant sur la jeunesse corse, et justement sur l'engagement, sur pourquoi est-ce qu'on est jeune, et pourquoi est-ce qu'on a envie de mourir pour la Corse, quoi. Il y a quelque chose d'assez fou et d'assez intéressant, d'assez passionnant. Et puis ce film, mis ensemble, ça raconte vraiment quelque chose de ce territoire assez particulier. Et ça le raconte, quelque chose quand même de très fort, d'un point de vue féminin, alors que c'est quand même l'histoire de la lutte armée corse du FLN est quand même une histoire d'hommes, essentiellement. Ce point de vue féminin qui est du coup à la fois extérieur et à la fois intérieur. Comment faire quand on est une femme dans ce monde d'hommes? C'est très très intéressant la manière dont ça aborde. D'ailleurs, ça fait un peu écho avec Le Royaume de Julien Colonna qui sort tout petit peu plus tard, qui était présenté à Cannes et qui se passait aussi en Corse dans les années 90 et qui racontait l'histoire de la fille d'un caïd et qui est du coup ce point de vue aussi féminin sur ce monde masculin, là plutôt de moins de la dimension politique, mais plus la dimension effectivement bande organisée, bande armée. Donc ça se répond plutôt pas mal. Et effectivement, grand film sur le journalisme, sur le photojournalisme, cette envie d'aller voir. On a tout un passage où elle va en Bosnie pour voir la guerre, hein, puisqu'on est pendant la guerre des Balkans. Et finalement, qu'est-ce qu'elle retire de ce voyage sur le terrain du conflit? Rien, aucune photo. Parce que finalement, qu'elle aurait vraiment su comprendre le mieux, c'est ce qui est le plus proche d'elle, mais qu'elle ne peut pas véritablement photographier. Donc il y a ce rapport aussi au métier de journaliste, en tout cas de journaliste d'actualité, de ce besoin d'être au plus près des événements et se rendre compte que finalement, en étant au plus près, c'est pas forcément là qu'on comprend le mieux les choses. Moi, ça me fait beaucoup penser à « Je veux voir » de Johanna Hadji Tomei, à Lille Joreij, qui est un film sur la guerre au Liban, mais qui explorait beaucoup ces questions aussi. Donc vraiment un film passionnant, et puis un grand film aussi de mise en scène, de direction d'acteurs. La musique est super. Enfin, voilà. Je ne sais pas à quel point ce film est compréhensible d'un public, par exemple, étranger, qui n'a jamais entendu parler de la Corse et de ses histoires. C'est vrai que nous, même sans connaître le détail, si on nous dit FLNC, ce genre de choses, on a un peu entendu des histoires. Donc, on comprend un peu ce climat si on montre ça, je ne sais pas, par exemple, le jury de Cannes qui était américain, je ne sais pas, le président du jury, qu'est-ce qu'elle en aurait pensé? Je ne sais pas, c'est une bonne question.
Oui, mais quelque part, le parrain, sans que les personnes se soient intéressées à la Sicile, finalement, le parrain, il y avait cette dimension. Je trouve qu'on retrouve dans ce film de Peretti une mystification des gangsters, quelque part, et en même temps, il y a un jeu entre la mystification et la démystification par la photographe de cette figure. Et donc, il y a une dimension romanesque, comme dans le parrain, par ses récits elliptiques, qui brasse plusieurs époques, et également une tragédie. Parce qu'en fait, on ne le dit pas, mais au début du film, il y a la mort du personnage principal, donc ça on peut le dire, c'est au début, et tout le film est rétrospectif. Donc il y a cette urgence permanente d'embrasser la vie par les quatre bouts, avec un danger imminent que l'on connaît. Et donc ça travaille la tragédie, un peu comme le parrain aussi, qui ouvre avec une mort, et qui rétrospectivement va nous construire le récit.
Sauf que le parrain est... globalement, même si on peut dire que c'est un peu vrai sur les Italo-Américains, etc., c'est pas tellement une question d'identité, alors que là, le combat, pourquoi est-ce qu'on s'engage, c'est cette question d'identité, c'est quoi être corse, en fait. Et c'est pour ça que je pense le fait qu'elle va en Bosnie, la guerre de Bosnie, c'est aussi une guerre d'identité, quoi. C'est quoi être bosniaque, c'est quoi être serbe, ça veut dire quoi être yougoslave, enfin, cet enjeu-là, on le retrouve un peu de manière différente sur le territoire corse, et ça, je trouve que c'est assez malin la manière dont Thierry Dupréti, de manière générale, dans tous ses films, aborde ce sujet, quoi. Il n'est jamais en totale opposition, il n'est jamais en totale, évidemment, il n'est pas pour la lutte violente, mais il nous amène à comprendre pourquoi est-ce qu'on y arrive, en fait.
À travers son regard, il y a aussi la grande désillusion de cette génération-là, qui va pas, voilà, qui a beaucoup d'espoir, qui met beaucoup d'espoir dans la lutte, et qui va pas du tout, ça va pas du tout se concrétiser comme il le souhaite.
Exactement.
Mmh.
Voilà, j'ai laissé durer cette musique parce que c'est le seul instrumental original du programme. On a entendu une chanson dans un film musical, on a entendu chez Burton la reprise d'un thème d'un premier film. Là, c'est vraiment une nouvelle création instrumentale signée David Steinke, qu'on avait connu d'ailleurs, un compositeur qu'on avait connu chez Michael Herz, et qui sait toujours être un peu évanescent, un peu nébuleux dans ses musiques, avec ce motif de flûte, qui est le motif du chien. Il s'agit donc du Procès du chien, premier film, première réalisation de l'actrice Laetitia Doche.
Tout à fait, c'est donc avec également Laetitia Doche qui joue Avril, avocate abonnée aux causes perdues, qui s'est fait une promesse, sa prochaine affaire, elle la gagne. Mais lorsque Dariush, ça c'est François Damiens, client aussi désespéré que sa cause, lui demande de défendre son fidèle compagnon Cosmos, le chien, les convictions d'Avril reprennent le dessus. Commence alors un procès aussi inattendu qu'agité, le procès du chien. Voilà, c'est donc une comédie de procès signée Laetitia Doche, qu'on connaît aussi au théâtre, hein, puisqu'elle avait fait des mises en scène, notamment avec un cheval donc, sur scène. Là, elle s'attaque donc au chien. Alors, on a des fans d'animaux de compagnie ici autour de la table, Benoît, Bernard.
Plus fan de Laetitia Doche que des animaux de compagnie, mais ce qu'elle fait des animaux, je trouve ça très touchant. C'est vrai que Laetitia Doche a un parcours très très intéressant, atypique en quelque sorte. Actrice chez Justine Trier, et puis chez plein d'autres ensuite réalisateurs, notamment dans la Caméra d'Or Jeune Femme, hein, où elle a été un peu son premier grand rôle principal. Et puis là, elle passe derrière la caméra, et je trouve que ce qu'elle fait en passant derrière la caméra, elle le fait vraiment comme une... Non seulement comme une cinéaste, mais aussi comme une citoyenne. Elle vraiment se questionne sur le monde, sur sa sensibilité vis-à-vis du monde, son rapport à l'animal, son rapport à l'humain, son rapport à toutes les questions de la société, du féminisme, également du tribunal médiatique. Toutes ces questions d'aujourd'hui, de ce contemporain-là, elle en fait au départ une comédie. Et moi, c'est vrai que dans les premières minutes du film, je craignais que ça ne soit qu'une comédie, parce que c'était là où peut-être on attendait le plus Laetitia Doche. Et je trouve que là où c'est très fort, c'est que d'une comédie, ça devient une fable, avec la voix off qui nous raconte l'histoire comme une fable. Et puis ça devient aussi un drame, avec des moments sur la mort des femmes, sur des faits très très tragiques, et puis avec des scènes que je trouve parallèles à la trame principale et qui bouleversent, notamment quand elle discute le personnage de Laetitia Doche avec son voisin enfant, que l'on devine être frappé par son père. Et donc je trouve comme ça, il y a des incises de drame qui viennent bouleverser la comédie, et je trouve que c'est d'une audace et d'une intelligence folle, au-delà donc de ce personnage du chien qui est questionné en termes de statut, est-ce qu'on peut juger un chien, et qui est à la fois le carburant de la comédie mais également le carburant du politique.
Il y a une vraie prise de risque effectivement d'avoir fait ce film qui est inspiré de faits réels, hein, qui sont survenus en Suisse il y a quelques années, je crois que c'est passionné l'opinion publique. Et voilà, ouais, c'est un film d'acteurs aussi. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de personnages et beaucoup d'acteurs assez brillants, certains qu'on connaît, comme, je ne vais pas citer forcément les plus connus, comme Zadie ou François Damiens, évidemment Laetitia Doche qui est super dans le film, mais il y a aussi Anne Dorval qui est vraiment... qui va à fond, quoi. Bon, en même temps, c'est assez savoureux. Il y a des découvertes aussi, comme Tom Fizzleson, qui joue le voisin du personnage de Laetitia Doche, qui est un voisin un peu rebelle, comme ça, qu'elle héberge à un moment donné, et qui est plutôt brillant aussi. Et après, voilà, il n'y a peut-être pas... il n'y a peut-être pas assez de... Il y a quand même de la théorie de la réflexion, de savoir, évidemment, qu'est-ce que ça implique le fait d'avoir un chien, de faire le procès d'un chien, qu'est-ce que ça implique sur plein d'aspects. Mais il y a surtout, j'allais dire, des personnages en couleur, des dialogues savoureux, beaucoup plus que de la réflexion, quand même, dans le film. C'est ça qui emporte,
tout à fait.
Que ce soit une comédie, et qu'il ne faut peut-être rien attendre de plus non plus.
Oui, c'est ça, c'est d'abord une jolie petite comédie qui n'est pas non plus ultra drôle. Il y a quelques moments assez rigolos et tout. Je trouve qu'il n'y a pas non plus quelque chose qui emporte où on se dit c'est vraiment très très drôle, c'est vraiment très très réussi. Les dialogues ne sont pas extraordinaires. Quelques personnages un peu en dessous. Je trouve que par exemple François Damiens, il joue, on dirait un personnage des caméras cachées, François Damiens. Donc au bout d'un moment, on en a un peu marre, je trouve. Zadie, c'est pareil, il fait un peu du Zadie. Et le problème, c'est que pour qu'une comédie, ce genre de comédie soit drôle, il faudrait vraiment pousser le curseur à fond, quoi. Et on sent qu'il y a plein de moments où elle n'ose pas trop aller très loin, elle n'ose pas pousser le curseur très très fort, et du coup, on sourit, c'est amusant, mais on rigole pas franchement, et c'est un peu dommage. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Bernard, sur le côté un peu théorique, sur le côté film de procès, ça reste quand même très 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 léger. On sent qu'elle s'est pas vraiment intéressée, ou en tout cas, ça ne se retransmet pas dans le film sur la manière dont fonctionne un procès en France, comment est-ce qu'on devrait traiter ce type de situation dans le cas réel. On n'apprend pas grand-chose sur la justice après avoir vu le film, et surtout que ce film arrive après, certes, Anatomie d'une chute, mais aussi Victoria de Justine Triet, qui était aussi une comédie de procès, où d'ailleurs il y avait une séquence avec un chien, donc c'est assez amusant, et qui est un film beaucoup plus intéressant sur le système judiciaire. De voir ce film qui arrive après, ben ça sent quand même un peu le réchauffer, je trouve. Voilà, c'est efficace, c'est comme la musique qu'on a entendue, quoi. C'est une jolie musique, le rythme rentre bien. J'aime bien comparer un peu les films aux musiques, parce que finalement ça raconte beaucoup du film, je trouve. C'est vraiment la bonne petite comédie, mais voilà. Sans plus.
En termes, le terme joli n'est pas très positif dans ta bouche.
Si, si, c'est pas négatif, mais c'est joli.
Ok, bon, malheureusement, on n'a pas le temps, sinon j'aurais pu encore le défendre, mais on va se quitter avec une chanson, comme d'habitude. Il s'agit de la chanson d'un film que je n'ai pas vu, mais c'est ta recommandation, Pierre, c'est Tatami.
Ah oui, très très beau film, effectivement, sur le monde du judo, d'un point de vue iranien et de femmes qui jouent au judo, c'est assez fort. Assez passionnant. Réalisé quand même par un réalisateur israélien qui s'attaque à un sujet iranien. C'est assez original, mais je vous conseille de le voir malgré tout.
C'est du rap farsi, c'est ça?
C'est du rap iranien, du rap en farsi, donc.
Merci de nous avoir suivis, Bernard, Pierre, et puis au mois prochain, donc. Pour l'émission Table Ronde, en tout cas, mais sinon,
voilà.
Les émissions continuent.
Les émissions de Vive le Cinéma, chaque semaine, et notamment lundi prochain avec un nouveau chroniqueur, Thomas Révoy, que vous découvrirez à l'antenne. Voilà.
یه دختری که آرزوهاش تو چمدونن پشت سر گذاشته خونه ای که توش خفه خونن از وقتی چشاشو وا کرد اون فقط نشنیده بود داره جایی میره که آدم ها با تمه جورن دوباره زایده میشه داره نورو میبینه ذهنی که تاریک دیدش حالا پلناشو کنار مثل قافیه چیده ببینم حاضرین دیگه گاهی سنگ بشه دلش تا بشه اونی که میخواد بذاره اون بر مرز بدنی که زودیده زیاد بزنه زیر میز و تابوها رو خوردشون کنه بخوای جلوشو بگیری براش خون میشه سیاه خوب نگاش کنین چی ساخته از اون آدم دودل دیگه مطمئن از خودش که چی باسش مهم سرش بالا سیر پاش میلرزه زمین و زمان دیگه آزاد از بندون دیگه با تنش خوشه کلی ترس داریم ولی اون خودش مهم نیست شما چی نظر دارین جوری جنگیده که شکستتون آب خوردنه پس به جا عربده کشی بفهمین تو چی کم داری آخر قصه رو هم خودش می نویسه انوز خیلی جوونه و امید میده بهش این حس روبروش آسمون که ته نداره آبیش اون فهمیده که فقط خودش ناجی خودش میشه
Vous écoutez Allegre FM 93.1.